Chapitre 26. Le lendemain matin, la rue de Kate est bouclée par la police. Deux voitures sont garées en travers de la route à chaque extrémité, leurs sirènes bleues illuminant par intermittence les murs de leur chambre. Une camionnette banalisée stationne au milieu de la chaussée et deux policiers en uniforme sont plantés à côté du cordon pour dire aux gens de passer par une autre rue. Kate voit des rideaux se lever, des voisins ouvrir leurs portes en peignoir. Georgia entre dans la chambre. C'est quoi ce bordel?
Je n'en sais rien. Ça doit être en rapport avec la disparition de Saphir Maddox.
Oh mon Dieu! S'exclame Georgia en plaquant ses paumes sur ses joues. Tu penses qu'ils l'ont retrouvé? Son corps?
Georgia, ne parle pas comme ça. C'est...
La voix de Kate s'éteint. Bien sûr, elle y a aussi pensé. Le portail en bois du terrain en face est grand ouvert, et des policiers en civil vont et viennent.
Je vais aller me renseigner, l'informe Georgia en tournant les talons. Non, chérie, laisse-les travailler.
Elle entend la porte de l'appartement se refermer et voit sa fille, en pantalon de pyjama et sweat à capuche, essayer de mettre correctement ses baskets tout en avançant vers les policiers. Elle s'arrête face à eux, les mains dans les poches. Kate la regarde acquiescer, secouer la tête, montrer du doigt le chantier, puis leur maison. Au bout d'un moment, elle revient vers leur appartement. Kate va l'attendre dans le couloir.
Alors ?
Georgia se déchausse sans se baisser et va dans la cuisine, parlant à Kate par-dessus son épaule.
Ils ont trouvé quelque chose dans le terrain vague. La police scientifique fait des prélèvements. J'ai demandé si c'était un corps.
Apparemment pas.
J'ai demandé si c'était lié à Saphir Maddox, mais ils n'ont rien dit de plus. Ils vont rester là toute la journée, peut-être demain aussi.
Kate hoche la tête. Son estomac se soulève. Elle regarde l'heure, 9 heures passées. Rohan est sorti tôt ce matin, vers 7 heures. Elle se demande si la police était déjà là quand il est parti. Ce qu'il a ressenti. Elle lui envoie un message sur WhatsApp.
La police a bloqué la rue. Ils ont trouvé quelque chose dans le terrain d'en face. Tu sais ce qu'il se passe ?
La coche reste grise. Elle repose son portable et allume la bouilloire.
Tu veux un thé ?
Propose-t-elle à sa fille, qui est en train de manger un petit roulé au chocolat.
Non merci, maman. Je retourne au lit.
Elle enlève son pull et le pose sur le dossier d'une chaise. Elle fait tomber l'emballage de son biscuit dans les environs de la poubelle et le papier gras atterrit sur le sol. Kate s'apprête à l'appeler pour qu'elle le ramasse, mais elle ne trouve pas le courage, soupire et s'en charge elle-même. De petites décharges parcourent son système nerveux. Elle ouvre le tiroir à torchons et en extrait l'étrange carte de Saint-Valentin. Elle se rend compte que la carte de Molly n'a pas la même forme que l'enveloppe. Elle est un peu trop haute et pas assez large. Cette carte n'est pas arrivée dans cette enveloppe. Elle la sort, l'ouvre et la lit à nouveau. La petite Molly. Ce doit être une enfant très étrange pour envoyer des cartes de Saint-Valentin à des hommes adultes. Elle manipule la carte dans ses mains, l'examine sous tous les angles afin de repérer un indice qui lui permettrait de comprendre. Mais il n'y a rien d'autre. Après tout, c'est le travail de son mari de s'occuper d'enfants bizarres. Est-il vraiment surprenant qu'une de ses petites patientes se comporte d'une façon inadaptée avec lui ? Elle soupire et range la carte dans le tiroir. Elle se retourne et sursaute. Josh est là, en peignoir, les cheveux en pétard.
Pourquoi il y a tous ces policiers dehors ?
On ne sait pas vraiment. C'est en rapport avec cette fille qui a disparu manifestement. Ils ont trouvé quelque chose en face. La police scientifique est arrivée.
Ah ouais ? Réagit-il en filant dans le couloir et entrant dans la chambre de sa mère pour se poster devant la fenêtre. Elle le suit. L'arrière de son crâne est rasé à blanc depuis la veille, quand il s'est fait faire la coupe Peaky Blinders que tous les garçons ont en ce moment et qui donne l'impression que leur tête est trop grosse pour leur corps. Elle marche jusqu'à lui. Ils observent un homme et une femme en civil sortir du chantier en portant des boîtes en plastique entre les mains. Les policiers qui surveillent la rue ouvrent le cordon un instant pour permettre à un autre véhicule de police de s'approcher. Deux personnes en sortent. Kate reconnaît immédiatement l'inspectrice qui était dans son salon la veille. Celle qui voulait savoir ce qu'elle faisait à minuit le soir de la Saint-Valentin. On compte une cinquantaine de rues entre Alfred Road, où habite Saphir, et Hampstead, là où elle a dit à son oncle qu'elle se rendait. Des milliers de maisons et d'immeubles. Des dizaines de milliers de personnes. Et pourtant, la police a sonné à sa porte, s'est assise sur son canapé, s'inquiète de son emploi du temps et fouille le terrain vague en face de chez elle. Sans parler du fait que la jeune fille disparue avait son mari pour psy. Josh et elle lèvent la tête en même temps en entendant le bruit d'un hélicoptère.
Des journalistes. Je me demande comment ils ont su.
Il suffit d'un coup de fil. On ne peut pas dire que la police soit particulièrement discrète. Kate remarque un mouvement de l'autre côté de la rue et la porte de la maison d'en face s'ouvre.
C'est le voisin bizarre.
Elle se recule légèrement pour ne pas être visible. Derrière lui se tient la femme avec qui il a l'air d'habiter, la grande dame distinguée aux cheveux gris qu'elle avait vu chercher ses clés dans son sac il y a quelques semaines. Derrière elle, Kate aperçoit un grand échalas aux cheveux gris gominés en arrière. Ils sortent lentement. L'homme âgé lève la tête, cherchant l'hélicoptère des yeux. La femme marche vers un policier et lui pose des questions. Les deux hommes ne bougent pas, ne se parlent pas. Soudain, Kate se dit que l'étrange voisin a peut-être un rapport avec tout ça, qu'il est possible que ce soit à cause de lui que la police soit venue l'interroger. Elle se fait violence pour l'observer en détail, malgré le dégoût qu'elle éprouve. Il a une paume plaquée sur la bouche, un bras replié autour du ventre. Il se retourne en permanence vers le chantier. Au bout d'une minute, il laisse le couple âgé et disparaît dans la maison. Kate voit l'inspectrice discuter avec les deux personnes qui sont sorties du terrain en construction en portant des boîtes en plastique. Elle leur pose une question. La femme acquiesce, mais l'homme secoue la tête en signe de dénégation. Il jette un coup d'œil vers le chantier. Puis, l'inspectrice se retourne vers leur maison, comme s'ils étaient en train de parler d'elle, de sa famille.
« Viens, » dit-elle à Josh, qui ne respire plus depuis 2 minutes. « Laissons-les faire leur travail. »
Elle appuie la main sur son épaule et le sent se dérober légèrement.
« Non, je veux rester regarder. »
Kate soupire.
« D'accord. Tu veux un thé ?»«
Oui, s'il te plaît. Merci. Je t'aime. »
« Moi aussi, mon chéri. »
Elle ressent un pincement au cœur en pensant à son fils. À ce garçon si doux, plein d'amour, au crâne rasé, vulnérable.